Il n'y avait qu'une seule règle très précise dans la grotte, c'était que personne ne devait réveiller personne, donc tout le monde devait vivre à son rythme veille-sommeil, et tout le monde devait manger à son rythme. Alors évidemment, le pouvoir synchronisateur du groupe est très fort, et assez naturellement, quand quelqu'un commençait à préparer un repas, les autres venaient voir autour et parfois manger avec. Mais bon, quand on venait de se réveiller, quand on s'était réveillé, qu'on avait un petit déjeuner, puis qu'une demi-heure plus tard, on voyait quelqu'un qui préparait un dîner, néanmoins, on n'était quand même pas prêt à retourner manger. Donc, assez naturellement, les cycles se sont créés pour les uns et pour les autres. Et puis encore une fois, quand il y avait deux, trois personnes qui étaient là, elles mangeaient ensemble, mais ce n'était pas forcément tout le groupe. Et puis on essayait quand même d'avoir de temps en temps des repas de groupe, des repas collectifs, plutôt des repas de fête d'ailleurs, pour maintenir quand même ce lien social entre nous et ne pas totalement se déstructurer.
Est-ce que cette expérience a été vécue vraiment par chacun très très différemment, ou il y a quand même beaucoup de choses où vous vous rejoignez?
C'est toujours difficile de parler pour d'autres personnes, mais comme j'étais un peu l'observateur et le créateur de cette mission, j'ai eu un regard un peu différent peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que l'impression reste que tout le monde avait vécu cette expérience avec, une fois adaptée à ces nouvelles situations, avec plaisir, avec bonheur, à quelques exceptions près, avec cette volonté de vraiment créer une communauté fonctionnelle. Hein. Ça, c'était le point important, de coopération. Et ça a très bien fonctionné. Lorsqu'il y avait des problèmes, la coopération globale permettait de le résoudre. Donc je dirais que globalement l'expérience a été bien vécue et a montré entre autres qu'un groupe divers, issu d'origines différentes, qui avait la volonté de coopérer ensemble, était capable de s'adapter à quelque part n'importe quelle situation.
Émotionnellement, est-ce que c'est différent à l'extérieur, où on est quand même peut-être agressé par plus de choses, ou plus de choses nous touchent, qu'à l'intérieur?
Oui, alors là, on était obligé d'écouter nos sens et d'écouter nos perceptions, ce qu'on fait peut-être de moins en moins à l'extérieur, où il y a des tas d'injonctions qui nous disent à telle heure il faut se réveiller, à telle heure il faut manger, comme vous l'avez dit. Là, quelque part, une fois qu'on avait dépassé ce cap un peu de stress, de dire, mais mince, quelles sont les décisions que je dois prendre, comment je vais fonctionner, de se mettre à vraiment écouter ses propres rythmes. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait plus beaucoup dans nos sociétés. Et là, on se rend compte que on se sent beaucoup mieux, en fait, qu'on est dans un moment où, bah, si je suis fatigué, je vais dormir et je ne dois rien à personne. J'ai pas d'obligation par rapport à ça. Si j'ai envie de me réveiller, je me réveille et je me lève. Quelque part, on se sent beaucoup plus en phase avec soi-même dans ces conditions-là, d'autant plus que la grotte de Lombrive, en Ariège-Française où on était, est quand même une très belle grotte et où on a des sensations, des sensorialités, des émerveillements qui sont extraordinaires. Donc, on était capable de se sentir dans une forme de vie possible dans ces conditions-là.
Quelles sont les données maintenant que vous allez prendre en considération pour aller plus loin?
On a collecté des milliers de données, que ce soit sur nous-mêmes en tant qu'humains, des données sociales, des données biologiques, des données cognitives. On a également évidemment collecté toutes les données de la grotte, hein, la température, l'hygrométrie, on a même capté l'air de la grotte pour savoir l'air que nous respirions et autres. Donc on a maintenant toutes ces données qui sont synchronisées les unes avec les autres et qu'il va falloir analyser pour savoir finalement quel est le plus impactant. Est-ce que c'est l'humidité, le 100% d'humidité, le 10 degrés Celsius, ou est-ce que c'est l'absence de temps, ou est-ce que c'est encore autre chose qui a été le plus impactant, le plus marquant pour l'équipe, mais avec quand même un résultat qu'on peut déjà dire aujourd'hui. C'est que lorsqu'un groupe décide de coopérer, il est capable vraiment d'actions extraordinaires et de s'adapter à des conditions qui sont quand même l'absence de temps, on l'oublie un peu, mais c'est un des marqueurs fondamentaux de nos vies de tous les jours, le temps. Lorsqu'on l'enlève, effectivement, il faut trouver des nouvelles manières de fonctionner, des nouvelles manières de fonctionner, et c'est ce qu'a dû faire ce groupe, et je crois qu'il l'a fait avec succès.
Validation des résultats. J'ai lu quelque part que certains scientifiques estimaient que le cadre n'était pas assez rigoureux pour vraiment valider ces résultats.
Oui, des scientifiques qui ne travaillent que sur des cellules cognitives recréées artificiellement en laboratoire pensent ça effectivement. Mais tous les chercheurs qui travaillent sur l'humain en situation réelle savent bien que le groupe humain est son propre contrôle, puisque nous avons suivi ces personnes pendant 2 ans avant la grotte, durant la grotte, et nous le suivrons encore 2 ans après. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'évolution d'un humain par rapport à un état initial. Et ça, c'est ce qu'on est en train de montrer, c'est ce que font toutes les missions similaires, que ce soit Mars 500, Mars 100 ou autre. Donc je dirais que là, on est vraiment dans l'argutie scientifique, avec une incompréhension totale qu'aujourd'hui, nous devons comprendre les humains dans leur vie réelle, non pas dans les laboratoires fermés où on isole tous les paramètres qui ne correspondent en rien à la vie que nous allons vivre demain.